les podcasts de Radio Vatican.
Promouvoir les intérêts de la famille auprès des institutions européennes, c'est l'objectif de la FAFCE, la Fédération des associations familiales catholiques en Europe. Reconnue par le Conseil de l'Europe comme une ONG dotée d'un statut participatif, cette fédération se réclame de la doctrine sociale de l'Église. Récemment, après une conférence au Parlement européen concernant l'exposition des enfants à la pornographie, la FAFCE a par exemple lancé un appel aux députés pour améliorer la législation européenne dans ce domaine, un sujet sur la table des eurodéputés puisque le Parlement européen discute actuellement de la révision de la directive sur les services audiovisuels et médias. Antoine Renard, le président de la FAFCE, était à Rome ce lundi 13 février 2017 pour préparer un événement en vue du 20e anniversaire de la Fédération. Il évoque la nécessité pour l'Europe de prendre en compte la réalité des familles.
On essaye de communiquer de façon positive en présentant finalement l'organisation familiale comme un modèle d'organisation de société. Et à une heure où l'Europe se prend un peu les pieds dans le tapis sur son avenir, ça nous paraît pas mauvais de rappeler que finalement, le meilleur modèle de construction sociale, c'est la famille. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la famille, elle souffre de beaucoup de choses parce qu'on n'y prend pas suffisamment attention. Et un sujet de préoccupation majeure aujourd'hui concerne les enfants. Et c'est de grande actualité puisqu'il y a de façon récurrente des innovations qui mettent à mal ce devoir qu'ont les sociétés de protéger les enfants. Et notamment, s'agissant de la pédophilie, dont on sait bien que c'est un problème récurrent et encore aujourd'hui insuffisamment traité, étant donné les conséquences que ça peut avoir sur le déroulement de la vie des enfants, et puis le vaste problème de la pornographie qui se développe par Internet, le cinéma, la télévision, etc., sans les précautions suffisantes que les familles sont en droit de demander à leurs États.
Et justement, si vous en parlez, c'est entre autres parce qu'il y a une directive européenne qui est en discussion actuellement.
Absolument, et qui a été pour nous d'ailleurs l'occasion d'organiser un petit colloque à Bruxelles la semaine dernière sur ce thème pour attirer l'attention sur la gravité des choses, sur le sérieux de ces situations.
Alors vous le disiez, c'est votre travail, c'est aussi de présenter une vision vraiment positive, une vision constructive d'avenir.
Mais oui, c'est ce qu'on voudrait bien, parce qu'on pense qu'on a un message à proposer au moment où l'Europe devait être en situation d'écouter ce que dit ce qu'on appelle la population civile. Et nous souffrons d'ailleurs, je le dis honnêtement, de devoir trop souvent combattre des idées qui ne nous satisfont pas. Ça nous fait perdre le temps qui serait utile et nécessaire pour présenter les vertus de la famille, son potentiel, ses talents, et pour communiquer de façon positive, pour contribuer de façon positive à la suite de l'aventure humaine.
Quel est le lien justement entre l'Europe et la famille? Il y a beaucoup de choses qui se décident au niveau national. Qu'est-ce que l'Europe peut décider et quels sont un petit peu les grands sujets qui sont abordés et que vous abordez aussi?
Alors, vous avez raison, la politique familiale est du ressort de chaque État. Et c'est une bonne chose après tout parce qu'il y a dans les différentes politiques publiques une part culturelle très importante, singulièrement s'agissant de la famille. Donc ce qu'on appelle la politique familiale est de la compétence de chaque État au titre de la subsidiarité. Mais il n'empêche que la politique familiale au sens très large, elle ne comprend bien autre chose que de simples mesures financières d'aide aux familles. Ce qu'on pourrait appeler la politique familiale au sens large, elle concerne aussi l'énorme sujet de l'éducation. Reconnaître que les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, c'est aussi une initiative d'État. Et ça peut être une initiative partagée par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc vous voyez, l'Union européenne, elle prend des décisions tous les jours qui ont des conséquences sur la vie quotidienne des familles, mais elle ne parle jamais de la famille au motif que la politique familiale n'est pas de sa compétence. Il y a là une espèce de duperie. La famille mérite qu'on en parle aussi au niveau européen, entre États, entre responsables d'État qui veulent construire un avenir.
Et concrètement, c'est quoi ces sujets où vous dites finalement transversaux? Vous avez parlé de l'éducation, entre autres.
Alors je parle principalement de l'éducation parce qu'on voit bien que c'est un point commun de tous nos pays européens. Il y a aujourd'hui une urgence éducative. L'ensemble des systèmes éducatifs montrent leurs limites et leurs défaillances. Donc c'est un sujet commun qu'on peut très bien reconnaître, mais beaucoup d'autres sujets touchent la famille. La santé, la fin de vie, le travail. Il est normal, naturel, que chaque famille puisse faire vivre ses membres du fruit de son travail et non pas de l'assistanat. Or, quand on parle du travail et qu'on parle du chômage, qui est un vaste problème de l'Union européenne, on ne le regarde pas suffisamment du point de vue des familles.
Mais là encore, ce sont des sujets que l'Union européenne, qui sont communs aux pays de l'Union européenne, mais qui ne sont pas forcément de la compétence de l'Union européenne, si.
Le commerce l'étant, on voit bien que le commerce, et en particulier la globalisation de l'économie, a des incidences sur le travail. Et donc, vous voyez, c'est, en effet, c'est probablement en apparence pas direct. N'empêche que si on prend l'habitude de regarder tout ce qui se passe dans l'Union européenne depuis le spectre de la famille, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est concernée par l'ensemble des sujets.
Surtout qu'en plus, il n'y a pas que l'aspect législatif, il y a aussi l'aspect judiciaire. Et là, il y a vraiment une forte incidence de la justice européenne. Je pense à ce qui s'est passé sur la GPA, par exemple, mais pas seulement.
Oui, tout à fait. Et du reste, alors là, en matière de justice, vous faites allusion à une institution du Conseil de l'Europe, qui est donc un ensemble un peu plus vaste que l'Union européenne, mais dont on voit bien qu'il a une influence culturelle sur le développement de l'Union européenne. Et ces sujets qui touchent à la culture sont des sujets qui, petit à petit, se transfèrent, se transportent dans une espèce de réalité quotidienne. Au fond, les familles, elles ont besoin, elles ont envie, non seulement d'être reconnues pour ce qu'elles font, mais elles ont aussi besoin d'un environnement culturel qui leur soit favorable. Et toutes ces discussions sur la marchandisation du corps, sur la gestation pour autrui, qui commencent au Conseil de l'Europe, puis se poursuivent au Parlement européen, puis reviennent au Conseil de l'Europe, se terminent par des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, tout ça crée un climat qui n'est pas favorable au souhait des gens, finalement, de développer leur propre famille. Ils finissent par ne plus y croire. Il y a une espèce de désespérance, qu'on voit, qui d'ailleurs se traduit dans les élections d'une façon assez générale, mais qui se traduit aussi par le très faible taux de natalité qu'on observe en Europe. Cela est à la fois le signe critique d'un manque de confiance et dans l'avenir et dans les institutions européennes qui s'avèrent pas capables de créer ce cadre favorable.
C'est-à-dire que si on veut redonner aussi peut-être de l'attrait à l'Europe, c'est aussi revenir aux problèmes concrets, entre autres, des familles.
Mais absolument. Il faut revenir aux problèmes concrets, il faut donner la parole aux familles. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui vous empêche de vous développer comme famille? Qu'est-ce qui empêche des jeunes d'avoir un projet de mariage alors que tous les sondages montrent que c'est le premier de leurs rêves? Ils voudraient réussir une vie de famille. Et pourtant, on constate qu'ils ne le font pas. L'âge au mariage recule, le nombre de mariages diminue, et surtout, le nombre d'enfants diminue de façon absolument dramatique, avec énormément de conséquences naturellement sur l'ensemble des systèmes économiques, mais avec aussi ce signal très fort qu'il y a une espérance qui disparaît.
L'Union européenne, l'Europe, le Conseil de l'Europe aussi, donc, qu'est-ce que vous les appelez à faire d'un point de vue très très concret ?
Alors, d'un point de vue extrêmement concret, on les appelle à systématiquement accepter de regarder les conséquences pour les familles de n'importe laquelle des décisions ou des projets qui sont préparés par les institutions politiques. Je vous donne un exemple, et on y revient, le travail, toutes les circulaires sur les travailleurs transfrontaliers, etc. Eh bien, on pourrait assez facilement examiner chacun de ces textes du point de vue de l'effet qu'ils ont sur les familles. C'est ce qu'on appelle le family mainstreaming. La façon dont on s'y prend, c'est qu'on essaye de constituer des groupes à l'intérieur du Parlement européen, à l'intérieur du Conseil de l'Europe, de parlementaires qui sont sensibles à ces sujets, qui sont prêts à prendre la parole, à organiser des groupes de travail, à organiser des conférences pour progressivement l'étendre. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est d'essayer de rencontrer les responsables des États. Parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que finalement, les décisions qui sont prises dans les institutions européennes, elles sont prises en réalité par les responsables des États.